La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.
Marc Boilard, bonjour.
Salut tout le monde, comment allez-vous?
Oui, après une première chronique sportive hier, t'as une autre chronique historique aujourd'hui, tu sais.
Ah bon?
Mais tu finis le show avec nous autres quasiment. Là, parce que,
ah oui, c'est vrai, c'est ça.
À cause de Canadien.
Oui, le Canadien qui est sur nos ondes.
Vous avez, je trouve ça tout à fait logique, Bumpy, Pierre-Yves McSween, qui est très accessoire sur le show, et vous m'avez gardé pour finir.
Vous gardé le meilleur pour la fin. Ben oui, évidemment.
Absolument génial.
Et c'est surtout pas une question d'horaire préétabli. Hein,
pas tout. Non, c'est des.
C'est de l'amour.
Je pense ça comme du favoritisme, ben oui.
Et tu veux nous parler, évidemment, c'est l'histoire qui fait jaser partout sur les médias sociaux, le décès de Bernard Lachance.
Ouais, mais c'est que désolé, mais je vais casser un petit peu votre party.
Vas-y.
C'est-à-dire que Bernard Lachance, complotiste notoire, blablabla, et je veux vous montrer qu'à quelque part, on a tous un fond de ça. C'est-à-dire que la différence entre nous tous, c'est des gens qui sont à quelque part beaucoup plus bornés qu'on pense, puis je vais vous le démontrer, puis les complotistes, c'est juste que les complotistes trouvent des informations, finalement, puis décident d'aller vers des trucs qui se prouvent pas, mais qui font beaucoup de bruit, puis là, tout à coup, les sources officielles deviennent par définition douteuses, etc. On est malheureusement tous de même. Puis là, je vais te parler du dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle « Soyez compris », parce que pour l'écrire, quand tu fais un livre basé sur d'autres livres que tu as lus, hein, quelque part,
c'est
une pure fiction, bon, c'est ça. Puis il y a deux affaires que j'ai appris, moi, dans ce livre-là, qui se retrouvent dans le livre, bien entendu, c'est de un, on cherche tous à faire entrer tout le monde dans une boîte. Ça, c'est le premier point. Et de deux, on juge tout le monde, on juge les gens à partir du moment où on a un peu d'infos, puis nos préjugés comblent le reste.
Ouais.
Ce qui fait en sorte qu'au final, on n'est pas si différent des gens qui ont une mentalité complotiste. C'est juste que nous autres, c'est basé sur, soi-disant, des informations qui sont un petit peu plus, si tu veux, vérifiées ou vérifiables.
Crédibles.
Pour illustrer ça, oui. Pardon?
Il y a juste ajouté crédible.
Oh,
oui, tout simplement.
Voilà. Pour illustrer ça, je vais vous conter une anecdote bien réelle, qui, en plus, Vez va adorer ça. C'est une anecdote qui vient du monde de la lutte.
OK?
Oui.
Ça a rapport avec un documentaire que j'ai...
L'effet vérifiable à la lutte.
Côté crédibilité, on vient de baisser une coche, là.
Non, mais Vez, je sais que tu as toujours hésité. À moi, tu le dis en privé comment t'aimes ça, puis tu veux pas, mais bon, bref.
Il sera pour vrai à la lutte, hein, Marc?
Ben oui!
C'est pas arrangé, pas en tout avec le gars des
Non, mais c'est bien important parce que je prends un exemple qui est rigolo, qui est coloré, la lutte, mais qui est très vrai, OK? C'est le départ d'Hulk Hogan, comment ça a commencé. Puis vous allez voir, là, je vous garantis que qui que vous soyez, vous avez soit déjà vécu ce que je vais vous parler, ou si c'est pas le cas, ça s'en vient. Quand je vous parle de rentrer les gens dans des boîtes puis d'avoir des préjugés qui comblent le reste. Écoutez ça. J'ai appris que quand Hulk Hogan a commencé, c'était à l'époque qui était avant la WWE de Vince McMahon, c'est-à-dire une époque où la lutte était régionale partout en Amérique.
Okay.
C'était comme un peu un système où en Floride, t'avais un promoteur de lutte, en Louisiane, t'en avais un, au Texas, t'avais la famille Hart à Calgary, etc. Puis les lutteurs étaient signés puis restaient grosso modo dans leur organisation qui était dans l'État, si tu veux. Et quand McMahon est arrivé, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu ce qu'on appelle en anglais syndicated, c'est-à-dire, il a mis la télé là-dedans, puis tout à coup, ça a brûlé le marché, puis tout le monde s'est retrouvé à travailler pour une seule et même organisation. À cette époque-là, il y avait un promoteur en Floride qui s'appelait Vern Gagné, qui était très populaire, puis la lutte vivait très bien. Évidemment, pas de télé, c'était plus difficile, mais c'était comme nous autres dans le temps, quand c'était au Colisée. Vous étiez pas là, les jeunes, mais Vern se souvient de ça, il y avait de la lutte au Colisée.
Ben oui, j'ai déjà vu les poutrées d'Hollywood au Colisée.
Bon, exactement. Alors, c'était le même système, si tu veux, OK? Moins nationalisé. Et ce gars-là, Vern Gagné, a rencontré Hulk Hogan, il se l'est fait présenter, puis il a dit « Hey, oui, il y a de l'air bon, etc., je vais le mettre dans mon organisation. » Et là, les semaines et les mois passent, puis Hulk Hogan devient vraiment une vedette. C'est Vern Gagné qui l'a découvert, je vous le rappelle. Et là, il remplit les arénas, il finit par faire les main events, c'est-à-dire tu sais, le combat final, etc. Mais dans la tête, et c'est là que c'est intéressant, dans la tête de Vern Gagné, Hulk Hogan n'a pas le profil pour devenir une vraie star de lutte. Les vraies stars de lutte dans le temps, c'était des Harley Race et autres, c'est-à-dire des gars plus bourrus, qui faisaient un petit peu plus genre Gutshop, etc. Hulk Hogan, pour lui, c'était le flasheux avec les cheveux blonds, beaucoup trop show-off. Mais dans sa face, il voyait qu'il était hot. Mais dans sa tête, c'était pas ça, un lutteur vedette. Et un jour, Vince McMahon achète à son père, Vince McMahon Senior, la WWF, puis lui, il spot Hulk Hogan, il donne un contrat, il vole pas, hein, Vern Gagné, lui, il a pas pleuré quand il a vu ça. Et c'est lui, Vince McMahon, qui a rendu Hulk Hogan une vedette, puis Hulk Hogan était tellement fait pour révolutionner la lutte, puis le mot révolutionner est important dans cette histoire-là, qu'aujourd'hui, tout le monde sait c'est qui Hulk Hogan, alors que très peu de monde sont réellement des fans de lutte.
Absolument.
Moralité, tu peux avoir dans ta face quelqu'un qui te dit « Voici la vérité, voici comment je suis, voici tous les faits, voici le réel », mais toi, c'est pas ça. Dans ta tête, tu persistes à dire « C'est pas ça un lutteur, c'est pas ça un problème de société. » C'est, revenons à ce que je vous ai parlé concernant Marie-Pierre Morin. « C'est pas ça une victime, donc on tombe sur la noix de Safia Nolin. Mm-hmm. » Ou « C'est pas ça. » Comprends-tu?
Oui, je comprends ton point.
C'est hallucinant à quel point, à quelque part, on tombe sur la noix des complotistes. Puis on se rend pas compte à quel point, bien entendu, moi je considère que je le suis pas, puis les autres non plus, c'est-à-dire on se fait une tête sur des choses qui sont vérifiables, je reprends vos mots, mais on a toujours cette espèce de propension-là qui est qu'à quelque part, c'est donc dur de changer d'idée, puis ça devrait être normal. On veut pas changer d'idée, on vient avec une espèce de règle qu'on a bâtie, puis il y a un terme à ça, ça s'appelle avare cognitif, c'est-à-dire, pour nous autres, c'est un coup de changer d'idée. C'est comme si crime, ça a pris tellement de temps que je me fasse une idée, que toi, tu m'arrives avec des arguments clairs, puis je devrais faire « My God, je me suis trompé ».
Oh oui, puis ça fait mal. Changer d'idée, ça fait littéralement mal psychologiquement. Là. C'est,
voilà.
C'est la dissonance cognitive, ça c'est définitif. Ça, t'as un point qu'on a tous... Un peu une histoire qu'on se raconte à propos de nous-mêmes par rapport à la perception des autres. Cette histoire-là est peut-être erronée. La différence, par contre, entre un Bernard Lachance et la majorité des gens, c'est que la majorité des gens vont pas mourir pour des chimères, pour des affaires qui ont pas de bon sens, même s'ils croient dur comme fer. OK, moi, il y a quelques catégories de personnes qui vont mourir pour des chimères. Je rentre là-dedans les illuminés religieux, les gens dans les sectes, les témoins de Jéhovah qui vont refuser une transfusion qui pourrait leur sauver la vie parce qu'ils ont une croyance en une affaire qui a pas de bon sens, les complotistes, tout ça. Ça prend quand même une catégorie de personnes.
Je suis bien d'accord.
Qui a des croyances extrêmes. T'as raison qu'on en a tous des croyances qui sont dures à bousculer. Ça, c'est clair, clair, clair. Moi, j'en ai.
Moi, je veux juste illustrer qu'on a le même réflexe, mais évidemment, on part pas de la même réalité.
Je comprends. C'est l'extrême où est-ce que ça peut nous mener. Tu comprends?
Parce
que il y a une différence entre quelqu'un de boqué qui veut pas changer d'opinion sur de quoi de banal.
Sur Carey Price.
Et quelqu'un qui va s'auto-saboter en prenant pas ses médicaments.
Je suis bien d'accord.
C'est là où est-ce que je pense qu'il y a une différence. Mais d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui vont aller jusqu'à cet extrême-là?
Ben moi, je t'ai écouté tantôt, puis tu avais un bon point, puis Patrick Lagacé reprend grosso modo ces idées-là dans son article aujourd'hui. À l'effet, puis moi, je peux t'en parler, tu sais, parce que j'étais analyste à Love Story. Je les ai connus, moi, les lofters de deuxième génération. Puis il y en a qui sont devenus Elisabetta Fanton, c'est-à-dire qui vit en Floride, qui fait vraiment...
L'artiste. Qui joue,
ben absolument, puis qui roule, puis je sais pas jusqu'à quelle envergure, mais dans la vraie vie, elle roule pour vrai, tu sais, c'est comme ça.
Absolument.
Puis il y en a d'autres qui sont retombés l'année d'après, qui sont devenus des purs inconnus. Puis Vez aussi a extrêmement raison, c'est-à-dire ce qui monte vite redescend vite. Puis si à un moment donné, t'as un espèce d'initiative, parce que Bernard Lachance avait exactement le même style de développement de carrière que les frères Tadros.
Oui.
Les frères Tadros, je peux pas dire si leur musique était bonne ou mauvaise, j'ai jamais entendu une toune. Mais eux autres, on les a connus zéro à cause de leurs chansons. On les a connus parce que on enregistre un album dans une bulle, on fait des patentes. Il y a une énorme différence entre bâtir une carrière puis bâtir une notoriété. C'est-à-dire que la deuxième a besoin de la première, mais tu peux avoir juste la première sans la deuxième.
Je comprends.
Ouais.
Puis ça prend plus de temps. Mais c'est-à-dire que tu peux bâtir une notoriété en l'instant de... Aujourd'hui, tu peux bâtir
instantanément.
Une carrière, ça prend du temps. C'est ça. Puis ça se détruit aussi vite que tu peux te bâtir une notoriété aussi. Là.
Absolument.
Fait que c'est
absolument.
Ça. Fait que le point que j'avais tantôt, c'est qu'on risque d'encourager de plus en plus des Bernard Lachance. Parce qu'on offre ce type de plateforme-là à du monde qui ont peut-être des penchants extrêmes.
Je t'ai-tu déjà parlé le début de carrière de Marc Dupré?
Non, je suis pas sûr. Oui, je pense. La façon qu'il est arrivé sur scène la première fois, là.
Écoute, le faire une histoire courte. Le vendredi, il pompe du gaz chez Sergaz. Le samedi, il ouvre pour Céline Dion au Forum.
Ouais, c'est ça. C'est. Mais pourtant, Marc Dupré.
Mais non, mais qu'est-ce que tu penses qu'il était? Non, pardon, c'est parce que t'as pas connu ses premières années.
Ok, il a chuté.
Marc, c'est une faillite. C'est juste ça. C'est pas tant que ça.
Oh, ok.
Non. C'est que, je veux dire, il recevait de l'argent, il a flobé 100%, le bateau, la maison, tout. Le gars, c'est pas une farce. Il était pompiste. Puis le lendemain, il part une carrière en première partie, premier show à vie. Il part une carrière en première partie de Céline Dion parce que René Angélil l'avait vu faire des petites imitations à son club de golf Mirage pour un contrat quelconque, une patente. Il a fait, il est donc bien bon, lui. Bang!
Est-ce qu'il sort...
Forum.
Il sortait pas encore avec la fille dans
Non, il l'a connu à travers ça. Okay. Moi, j'ai travaillé avec Marc. Puis c'est sérieusement, de toute ma vie, parenthèse potin showbiz, là, de toute ma vie, t'sais, moi, j'ai travaillé avec Maxime Martin, il a fait tout un virement, je peux te le confirmer, entre le moment où il consommait ou pas. Mais la personne qui est devenue le plus un monsieur, puis qui était vraiment pas exactement ça, là, c'est Marc Dupré.
Okay.
C'est spectaculaire.
Oui, mais ben, au moins, il a réussi à se relever de
tout
ça.
Oh, mon Dieu.
Merci,
mon Dieu.
Marc, on se reparle.
Hey, salut.
Demain. Salut. Bye. Bye.
La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.